Bonjour Monseigneur.
Bonjour Laurence.
Alors aujourd'hui, nous avons une émission sur le thème du Saint-Esprit, puisqu'on colle un peu à l'actualité de l'Église, nous sommes dans le temps de la Pentecôte, la venue de l'Esprit-Saint sur les apôtres et sur la Vierge Marie. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce thème du Saint-Esprit et de la Pentecôte ?
En fait, l'Esprit-Saint est très présent dans la liturgie en ce moment entre Pâques et la Pentecôte, parce qu'on lit les Actes des apôtres. Ça commence pratiquement à la Pentecôte et l'Esprit-Saint est donné aux apôtres qui sortent de leur peur et qui commencent à annoncer Jésus Seigneur, Jésus Sauveur. Et les Actes des apôtres racontent tout cela, ces premiers temps de l'Église, cette première Église missionnaire.
Alors pourquoi lisons-nous les Actes des apôtres justement jusqu'à cette montée, on va dire, vers la Pentecôte ?
En fait, c'est la manière dont l'Esprit-Saint conduit l'Église qui nous est montrée. Dans les Actes, figurez-vous qu'il y a quatre Pentecôtes. Il y a celle que nous connaissons au chapitre 2 des Actes des apôtres. Le Saint-Esprit est donné sous forme de langue de feu parce qu'il fait la communion de toute l'humanité. Et que c'est l'évangile de la résurrection, vous voyez, qui est annoncé partout dans le monde. Alors, donc il y a cette première Pentecôte, et puis il y a une deuxième petite Pentecôte au chapitre 4 des Actes, c'est après l'arrestation et le jugement des apôtres, donc les apôtres sont arrêtés, ils sont jugés, et ils sortent de la prison, et les Actes disent « quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler ». Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Et donc l'Esprit-Saint fortifie les apôtres dans leur témoignage et dans les épreuves. Il y a une troisième Pentecôte au chapitre 10 des Actes. C'est au moment d'intégrer des païens dans l'Église. Ça s'appelle la Pentecôte sur les païens. Parce que Pierre rencontre des gens qui sont des païens, qui ne sont pas des juifs. Mmh. Et puis les Actes disent, Pierre parlait encore, quand l'Esprit-Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, c'est-à-dire sur les païens, le don de l'Esprit-Saint avait été répandu. Donc vous voyez, troisième Pentecôte, et puis il y en a une quatrième à Éphèse, où Paul rencontre des disciples, mais qui ont été baptisés dans le baptême de Jean-Baptiste. Ils n'ont pas reçu le baptême des apôtres, mais le baptême de Jean. Et du coup, Paul leur prêche Jésus-Christ mort et ressuscité. Et du coup, ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et les Actes disent, quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit-Saint vint sur eux et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. C'est une Pentecôte qui insiste sur la grâce de l'Esprit-Saint donnée à toute l'Église. Alors ça, vous voyez, pourquoi est-ce qu'on a ces petites Pentecôtes qui sont racontées après la grande Pentecôte ? En fait, c'est pour dire que la Pentecôte continue dans l'Église et que l'œuvre de la Pentecôte est continuée parce que nous recevons l'Esprit-Saint à travers les sacrements. Mais à chaque fois que nous invoquons l'Esprit-Saint, notre vocation de chrétien, c'est d'être mendiant de l'Esprit-Saint. Alors, ce qui est beau, c'est que dans les Actes des apôtres, on voit aussi que l'Esprit guide les missionnaires. Par exemple, les Actes disent un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils observaient un jeûne. L'Esprit-Saint dit aux apôtres « Détachez pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc on voit l'Esprit, vous voyez, qui donne des
indications précises.
Et alors, les Actes, donc ça c'est au chapitre 13, ils disent « Alors après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Quant à eux, ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit, ils descendirent jusqu'à Séleucie et de là prirent un bateau pour l'île de Chypre. » Il y a un autre passage un petit peu plus loin, au chapitre 16 des Actes. Je vous le lis parce que ça montre comment Paul est attentif aux suggestions de l'Esprit-Saint. Il se laisse conduire comme si l'Esprit-Saint, voilà, vous voyez, il essaie de comprendre. Il dit, alors les Actes disent, Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates. Alors donc c'est à l'intérieur de la Turquie actuelle, si on peut dire. Car le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils traversèrent alors la Mysie et rejoignirent la côte à Troas. Or Paul eut une vision pendant la nuit, un Macédonien était là debout et l'appelait « Traverse la mer pour venir en Macédoine à notre secours ». Après cette vision de Paul, nous avons cherché à partir immédiatement pour la Macédoine, car nous étions certains que Dieu venait de nous appeler à y porter la bonne nouvelle. En fait, c'est quoi ? C'est le récit de la première évangélisation de l'Europe. parce qu'il passe de l'Asie mineure, si vous voulez, à la Grèce, à Macédoine. Voilà. Et donc, c'est comme si l'Esprit Saint leur disait, non, n'allez pas au nord de l'Asie mineure, n'allez pas là, mais traversez la mer et allez en Macédoine et en Grèce. Voilà. Et donc, c'est beau de voir comment ce que la première Église se laisse mener. Et puis alors, à la fin, en acte 20, il y a un beau passage aussi où Saint Paul donc dit au revoir aux anciens d'Éphèse, il va retourner à Jérusalem, et là il va être emprisonné. Donc c'est une partie plus sombre de sa mission, et puis ensuite il partira à Rome, mais enchaîné. Et voilà ce que dit Paul quand il dit adieu aux anciens d'Éphèse. « Et maintenant me voici contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce que je vais y trouver. Je sais seulement que l'Esprit Saint, dans chaque ville où je passe, témoigne que la prison et les épreuves m'attendent. Mais pour moi, la vie ne compte pas, pourvu que je tienne jusqu'au bout de ma course et que j'achève le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul se laisse conduire, se laisse guider, se laisse mener. Même si tout le monde lui dit « Écoute, ne va pas à Jérusalem, tu vas mal finir », eh bien, il dit « Non, mais moi, c'est l'Esprit Saint qui me dit intérieurement d'y aller ». Et donc, je crois que quand nous lisons les Actes des Apôtres, nous est remis en mémoire la manière dont l'Esprit Saint guide l'Église et guide chacun d'entre nous aussi. Pourquoi, finalement, il le fait ? Parce que Jésus a promis d'envoyer son Esprit. Et c'est Jésus, en fait, qui conduit l'Église dans l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Jésus qui nous guide les uns et les autres. Et donc, Jésus continue à travers nous, dans l'Esprit Saint, son œuvre d'évangélisation.
Alors justement, quand je vous écoutais, je pensais beaucoup à Jésus. Finalement, c'est Jésus qui parle la première fois de l'Esprit Saint. « Je vous enverrai l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur est sur moi. » Alors que quand on pense aux mages ou on pense à Joseph, on a des songes, on a des étoiles dans l'Ancien Testament. Et c'est vraiment Jésus qui parle le premier de l'Esprit Saint dans la Bible.
Oui, parce que l'Esprit Saint, il est là mystérieusement dès la création. D'abord parce que tout ce que fait Dieu, Trinité, ce sont les trois personnes. Tout ce que Dieu fait dans le monde, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui le font, chacun sous son mode propre. Mais si vous voulez, l'Esprit Saint, il n'arrive pas dans le monde au moment de la Pentecôte. Il est déjà présent à la création, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et puis, il est là, évidemment, regardez par exemple dans le Credo, on dit « il a parlé par les prophètes ». Donc, il est là, il inspire l'Écriture. Mmh. Il est là mystérieusement, mais on ne le connaît pas, on ne sait pas dire son nom exactement. Alors, Jésus va révéler, comme il révèle Dieu comme Père, il se révèle comme Fils, et il révèle l'Esprit Saint en promettant de l'envoyer. C'est dans les chapitres 14, 15, 16 de Saint Jean, où on en apprend le plus sur l'Esprit que le Fils va envoyer ou que le Père va envoyer par le Fils. Voilà.
Alors, on pourrait dire que chacun de nous est appelé, est invité à invoquer l'Esprit Saint dans sa vie pour se laisser guider. Vous-même, en tant qu'évêque, vous recourez beaucoup à la prière au Saint-Esprit. Il y a une prière qui est très, très belle, qui est le Veni Creator.
Oui.
Pourquoi le choix de cette devise aussi, que vous avez choisie, Spiritu ambulemus, marchant sous la conduite de l'Esprit Saint ?
Oui, alors ça, c'est une phrase de l'Épître aux Galates, justement. Saint Paul le dit au chapitre 5 des Galates. Donc quand il dit ça, c'est son expérience personnelle aussi, marchant sous la conduite de l'Esprit. Et moi, j'ai pris cette devise parce que tout simplement, voilà, elle est venue dans mon cœur. Et il me semble que toute la question d'un pasteur, c'est de se laisser guider par l'unique pasteur. C'est de renvoyer à l'unique pasteur, mais par la médiation de l'Esprit Saint, si je puis dire, c'est-à-dire par l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Et donc, la question d'un prêtre, d'un évêque, c'est d'être disponible pour pas faire son œuvre, mais faire l'œuvre de l'Esprit.
Et vous êtes aussi dans cette attitude-là d'écoute de l'Esprit Saint, quand vous avez des décisions à prendre également ?
J'essaye. J'aimerais bien le faire le plus honnêtement possible et voilà, être vraiment disponible. C'est pas toujours facile parce que on a des réflexes. On veut toujours agir un peu par soi-même, selon son... Donc voilà, parfois, il faut prendre un peu de recul. Et se dire, non, l'Esprit Saint vient en premier et inspire-moi ce que je dois faire.
Alors, l'Esprit Saint sera aussi particulièrement, on va dire, donné aux confirmants. Il y a quelques jours, nous avions donc la confirmation d'environ 150 confirmants adultes à la cathédrale de Nîmes. Quelle est l'actualité du Saint-Esprit pour eux ?
Oui, alors on a eu ces confirmants adultes. Il ne faut pas oublier à peu près 200 à 250 confirmants adolescents tout au long de l'année. Mais il y en a un certain nombre, évidemment, que je confirme pendant le temps pascal, donc après Pâques. Pour moi, c'est pour ça que c'est une fête de l'esprit, ce temps pascal, parce que c'est très concret. Moi, je viens avec le Saint-Crème, et puis je lis des lettres de confirmant, et puis j'invoque l'Esprit Saint, l'Esprit aux sept dons sur ces adultes et tout, sur ces jeunes. Et donc, pour l'évêque, c'est un moment extrêmement important de descente de l'Esprit, de nouvelle Pentecôte sur le peuple chrétien. Avec l'huile que j'ai consacrée le Mardi Saint, il y a une logique extrêmement belle. Alors, et donc, je demande pour que l'Esprit Saint, les sept dons de l'Esprit Saint sur ce peuple qui mendie l'Esprit Saint au moment de sa confirmation, ça suppose justement, j'essaie de le dire aux uns et aux autres, une véritable disponibilité intérieure au Saint-Esprit qui vient d'abord pour nourrir notre vie de foi. Ça, c'est le don de crainte et de piété qui vient nourrir notre vie de foi. Vous voyez, notre vie de fils et de fille bien-aimée du Père. Il y a le don de connaissance qui nous aide à nous regarder dans le projet de Dieu. C'est tellement important que nous nous regardions dans le projet de Dieu. Parce qu'on peut avoir un regard sur soi-même qui est désespéré. On peut avoir un regard sur soi-même qui est tout simplement... comme une déconvenue, qui est déçue. Bon.
Et ou je purement pense, humain. Ou
purement humain, tout simplement, voilà, exactement. Ouais. Et le don de connaissance nous fait entrer dans le regard de Dieu. La connaissance, c'est la connaissance que Dieu a sur nous. Et donc, on se connaît dans le projet de Dieu. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui nous donne ce don-là et qui donc nous remplit d'espérance. Et puis, il est important aussi de discerner nos projets, nos décisions dans l'Esprit Saint. Parce qu'en fait, je ne sais pas combien de décisions on prend par jour. Il y a les micro-décisions et puis il y a les grandes décisions. Mais comment est-ce que toutes ces décisions, nous les prenons là aussi, dans la lumière de l'Esprit? Ça, c'est le don de conseil qui nous aide à les prendre. Donc, on invoque le don de conseil au moment des décisions. Et moi, j'explique aux jeunes que les décisions, c'est quelles études ils vont faire, quel état de vie ils vont avoir. Mais c'est aussi décider un peu qu'est-ce que je vais faire de mes vacances, qu'est-ce que je vais faire de cette relation dans laquelle je suis entraîné. Comment est-ce que je vais pouvoir donner de mon temps libre, comment je vais pouvoir servir? Bon, ça, c'est le don de conseil. Et puis, en fait, il ne s'agit pas simplement de savoir quoi décider sous le don de conseil, il faut ensuite le mettre en pratique. Parce qu'on peut prendre des décisions, mais ne jamais les mettre en œuvre. Et ça, c'est le don de force qui nous donne de mettre en œuvre les décisions prises. Parce qu'il y a des décisions qui sont compliquées. Par exemple, prenez la décision de vous réconcilier avec quelqu'un ou de parler avec quelqu'un avec qui vous êtes fâché. Ensuite, il faut aller prendre la parole, il faut lui téléphoner, il faut trouver les mots. Et ça demande un don de force. Voilà. Et puis, il y a aussi la grâce de regarder les événements de notre vie et les événements du monde de manière théologale, c'est-à-dire avec un regard de foi. On peut être désespéré. Vous voyez, l'autre jour, une psychologue me parlait de l'éco-angoisse des adolescents. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de jeunes qui sont dans l'angoisse écologique, parce qu'on n'arrête pas de leur dire que le monde va mal, qu'il est en train de se détruire, que alors il y en a du coup qui ne veulent pas avoir d'enfants, qui imaginent un avenir impossible, noir.
Sombre.
Voilà, l'éco-angoisse. Comment est-ce qu'on regarde aussi la vie qui nous est donnée, le monde, dans la lumière du Saint-Esprit? Et ça, c'est le don d'intelligence, c'est-à-dire savoir regarder au-delà de ce qui nous apparaît de manière très humaine. Et puis enfin, l'Esprit Saint, il nous aide à unifier notre vie autour de l'Évangile, autour du Seigneur, comme une vie de disciple. Ça, c'est le don de sagesse. Et le don de sagesse, c'est une sagesse qui unifie toute notre existence. Voilà comment les dons, vous voyez, nous servent les uns et les autres à nous laisser conduire par l'Esprit.
Il y a une prière eucharistique qui est très belle d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est exactement les termes, mais c'est une prière qui dit « Donne-nous, Seigneur, la claire vision de ce que nous devons faire et la force de l'accomplir ».
Oui, c'est une oraison. Oui, c'est une oraison. Une oraison de la messe. Oui, exactement. C'est ça.
C'est l'Esprit Saint.
Oui.
C'est vraiment ça. Alors, est-ce que les baptisés ou toute personne peut être renouvelée dans les dons du Saint-Esprit régulièrement, ou est-ce que c'est seulement au moment de la confirmation? Au quotidien, comment être renouvelé dans l'Esprit-Saint?
D'abord, j'invite tous les auditeurs qui n'ont pas reçu le sacrement de la confirmation, s'ils en ont le désir, à la demander. Parce qu'on
Il n'est jamais trop tard.
Il n'est jamais trop tard. Moi, j'ai confirmé des gens à 80 ans. Donc, il suffit d'aller voir le prêtre. Et puis de dire comment je fais, j'aimerais bien m'y préparer. Donc on se prépare en quelques mois Et puis ensuite, la question, c'est de vivre ensuite en mendiant de l'Esprit-Saint. Alors, on peut aussi avoir été confirmé quand on était jeune, et puis avoir un peu oublié les grâces de sa confirmation. Bon, ben voilà, parce que on ne s'en souvient plus. Et puis alors, on redécouvre, par exemple, pendant la confirmation de jeunes de sa famille, ou une confirmation à la paroisse, on redécouvre que l'Esprit-Saint, c'est important. Il est là, il est présent. Alors, à chaque moment de son existence, on peut faire de ce moment une nouvelle Pentecôte et demander au Seigneur de nous renouveler dans la grâce de l'Esprit-Saint. Moi, à chaque fois que je fais des confirmations de jeunes, je propose à tous les membres de l'Assemblée de demander au Seigneur de renouveler les grâces de leur confirmation. Et puis peut-être de demander l'un ou l'autre don. Je viens d'expliquer les dons en quelques instants. Ben, on peut dire, Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse pour unifier ma vie. Seigneur, donne-moi l'esprit de conseil parce que j'ai une décision à prendre. Seigneur, donne-moi l'esprit de piété parce que je ne sais plus te prier. Seigneur, donne-moi l'esprit de force parce que là, je sais ce qu'il faut faire, mais je n'y arrive pas. Bon. Voilà, et donc, être mendiant du Saint-Esprit. Moi, j'aime beaucoup cette expression, je l'utilise souvent parce qu'on vit dans la dépendance de l'esprit. Ça, c'est notre situation. Alors, il y a aussi des parcours d'effusion de l'esprit, il y en a en ce moment, d'ici la Pentecôte, à Nîmes, c'est-à-dire des moments où on prend le temps, pendant quelques soirées, à demander, mais chacun peut le faire chez soi, pour dire au Seigneur, bah, prépare-moi une nouvelle effusion de l'esprit, j'ai vraiment envie que l'esprit de Pentecôte revienne dans ma vie, j'en ai tellement besoin, j'en ai le désir, c'est ça que je voulais faire. Et souvent, dans une nouvelle effusion de l'esprit, une effusion de Pentecôte, eh bien, on peut avoir une expérience nouvelle de l'amour de Dieu, on peut avoir une soif de prier, on peut avoir une nouvelle intelligence de la parole de Dieu, c'est-à-dire que la parole de Dieu, tout d'un coup, prend un goût qu'elle n'avait pas avant. Voilà, et puis il y a aussi la louange et la joie. On a envie de louer le Seigneur, la joie de la louange. Un amour pour les autres aussi, qui est renouvelé, parce que dans l'Esprit-Saint, évidemment, c'est un esprit d'amour. Et c'est l'esprit d'amour du Père et du Fils qui est l'Esprit-Saint. Et donc, c'est un petit peu comme... Vous savez, dans le blason du pape Léon XIV, il y a un cœur brûlant. Ben, c'est ça, c'est un cœur brûlant d'amour. Eh bien, une des conséquences de la Pentecôte intérieure, c'est d'avoir un amour renouvelé pour les autres. On peut avoir un dynamisme évangélisateur, un dynamisme missionnaire, avoir envie de parler. On peut avoir un grand amour de l'Église. Voilà. Et puis, surtout, on peut s'engager dans sa paroisse avec des charismes particuliers, parce que l'Esprit-Saint fait cela aussi. Il donne à chacun des charismes voilà, qui nous intègrent avec tout ce qu'on a à donner dans le corps du Christ.
Très bien, alors tout un programme. Alors le 8 juin 2025, donc, nous fêterons la Pentecôte. Que souhaitez-vous aux auditeurs de Radio Ecclesia qui nous écoutent ?
Eh bien, justement, une nouvelle Pentecôte pour chacun d'entre eux, vraiment qui prépare cette fête, peut-être qui prépare leur cœur. Quelques jours avant, peut-être 8 jours avant, vous savez, on fait des neuvaines. 8 jours avant, on récite tous les jours une prière à l'Esprit-Saint pour recevoir la grâce de la Pentecôte. Moi, je suis content parce que en plus, à Nîmes, je célèbre à la cathédrale et puis à la feria à ce moment-là. Donc, il y a une grande fête.
C'est une double fête.
C'est une double fête. Mais j'aime bien parce qu'il y a du monde aussi à la cathédrale. Et puis que, justement, c'est l'Esprit-Saint qui s'adresse à tous, même à ceux qui ne sont pas tellement habitués à venir à l'église, mais qui viennent ce jour-là pour la feria. Je trouve que c'est beau parce qu'il y a une ambiance de Pentecôte comme à Jérusalem, le jour où il y avait tous ces peuples qui étaient réunis. Et donc, voilà, c'est ce que je demande, que vraiment que le Seigneur bénisse tous les auditeurs en ce jour de Pentecôte.
Merci, Monseigneur.